Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Je suis en compagnie de Monsieur Cluzel, Monsieur Ringolet et de Monsieur Manuel des services municipaux de la ville de Die à la station d'épuration pour faire une petite visite de cette station pour savoir comment ça fonctionne suite à l'inauguration il y a un petit mois de l'équipement de séchage des boues. Bonjour.
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 Donc cette station d'épuration, elle épure l'eau, est-ce que ça fonctionne d'abord?
Oui, ça fonctionne bien, on a un rendement de pollution de 95%. Donc ça veut dire qu'on élimine 95% de la pollution entrante.
Quel type de pollution traite-t-on alors justement?
On traite ce qu'on appelle la pollution urbaine, donc tout ce qui est eau vanne, eau de toilette et puis eau industrielle, différentes entreprises de Die, telles la cave coopérative, cave Jaillance et Phytosan, les établissements Puyé.
Et comment vous êtes sûr justement de traiter 95% des déchets? Comment vous le savez?
Donc il y a des analyses qui sont faites régulièrement en entrée et en sortie. Ça s'appelle des bilans 24 heures. Et on analyse les effluents une fois par mois. Quoi.
Quels sont ces 5% qui restent alors?
C'est de la pollution que la station ne peut pas dégrader comme elle est. Et que c'est le milieu naturel qui finit la dégradation derrière. Toutes les stations fonctionnent comme ça. Donc c'est sur les 500 mètres à 1 km qui reste, le milieu naturel finit la dégradation de la pollution qu'il y a. Parce que nous, les bactéries qu'on a, elles ne peuvent pas la traiter, c'est pour ça.
Quels sont ces produits que les bactéries n'arrivent pas à traiter?
C'est le peu de nitrate qui reste, mais c'est des traces, c'est des produits chimiques, voilà, que nous, on ne peut pas traiter, ou biologiques aussi.
Alors, comment ça marche une station d'épuration? On va faire un petit tour de la station avec Monsieur Ringolet, justement. Alors, il y a une arrivée d'eau qui arrive de Die, vraisemblablement.
Donc le tuyau que vous voyez ici collecte toutes les eaux de la commune. On rentre à peu près 1200 m3 jour, qui passe après un canal de mesure. On le comptabilise, on fait les prélèvements pour les analyses. Ensuite, on passe dans un dégrilleur, qui permet en fait d'enlever toutes les grosses particules, les papiers et autres. Ensuite, on passe dans un bac désableur-dégraisseur. Donc là, les sables se déposent au fond, on les récupère, on les stocke dans une benne. Cette benne est envoyée en retraitement sur Romain. Voilà, c'est des décharges particulières exprès pour ce type de sable, de déchets.
Et ces déchets sont mis dans une décharge, ils
oui,
sont pas traités.
Voilà. Mais si, en fait, c'est des décharges qui sont avec des bâches qui récupèrent les effluents. Donc quand il pleut ou quoi, c'est mis à travers le sable. Ces effluents sont récupérés et retraités en station. Voilà. Donc, c'est parce que c'est des sables, il n'y a rien de particulier, à part un peu de déchets organiques, mais bon, voilà. Et les graisses sont stockés aussi dans un bac, et quand le bac est plein, un camion vient les chercher, et c'est aussi retraité sur Romain, donc c'est incinéré. Voilà. Ensuite, nous allons sur une zone de contact. Ça permet en fait d'éliminer un certain type de bactéries. En fait, nos bactéries qu'on veut nous, elles prennent le dessus sur les bactéries filamenteuses, par exemple, qui sont des bactéries qui épurent très bien, mais qui nous causent énormément de problèmes. Donc comme ça, en rajoutant énormément de nos bactéries qu'on veut faire développer, elles prennent le dessus et ça fait qu'on a moins de problèmes derrière pour épurer.
Quelles sont ces bactéries utiles et celles qui ne sont pas utiles alors?
Elles sont toutes utiles. Mais ce qu'il y a, c'est que les bactéries filamenteuses qu'on veut ne pas qu'elles se développent, si vous préférez, quand il y en a trop, ça fait, elles s'enchevêtrent entre elles, ça fait comme des cheveux et ça fait des tapis. Et ce qui se passe, c'est que vous avez les bulles d'air, d'oxygène et d'autres gaz qui viennent se plaquer dessous et qui font remonter toutes les boues en surface et du coup la station peut déborder et polluer gravement le milieu naturel. Donc c'est pour ça qu'on les élimine.
Vous utilisez des bactéries pour contrer les bactéries filamenteuses?
Oui, en les développant plus que celles qu'on veut éliminer.
Alors vous mettez quoi? Vous mettez des semences?
On met rien. C'est celles qui sont à l'origine à la station. Donc on en renvoie juste une plus grosse quantité dans ce bassin-là. De là, on part dans un bassin d'aération. Donc c'est là où vraiment on développe les bactéries qu'on veut nous pour épurer. Et donc on a trois aérateurs voilà, qui brassent l'eau, donc qui apportent de l'oxygène. Du coup les bactéries ont de l'oxygène pour vivre et dégrader les nitrates, les phosphates. Voilà. Donc là elles dégradent toute la pollution. De là on va dans le clarificateur qui est au milieu. Les boues descendent au fond du bassin et l'eau claire reste en surface et part vers la Drôme. Voilà, donc là l'eau est épurée, elle est propre.
En été, elle ne part pas directement dans la Drôme, on la réinfiltre dans des bacs à sable en fait, qui servent de filtre. Quoi. Et les rayons du soleil tuent les dernières bactéries porteurs de maladies, tout ça. Et ça retourne à la rivière par infiltration, par la nappe phréatique. En fait. Donc il n'y a pas de rejet direct en été, du 15 mai au 15 octobre. parce qu'il y a beaucoup de baigneurs, il y a beaucoup de bateaux, de canoës et tout ça.
Donc c'est un processus qui est totalement mécanique, il n'y a aucun additif chimique pour purifier l'eau.
Non, c'est tout biologique, c'est les bactéries qu'on développe qui, elles, vont chercher en fait la pollution pour se nourrir.
En gros, c'est comme un élevage, donc on élève des bactéries, et les bactéries, pour vivre, elles ont besoin d'oxygène, donc qui sont donnés par les aérateurs ici qui tournent. Et la nourriture, ben, en fait, c'est les effluents d'eau usée qui arrivent de la station et qui viennent alimenter, donner de la nourriture aux bactéries.
Et vous connaissez pas le nom des bactéries alors ? Il y en a beaucoup ou il y en a qu'une ?
Il y a des milliers de bactéries. Mais vous avez des rotifères, des ionotus, il y en a tellement. C'est des bactéries qui se développent, qui sont les plus communes. Quoi. Après, selon les stations, on développe plus certains types de bactéries pour pouvoir dégrader une pollution plus particulière.
Oui, parce que ici nous sommes à 10, donc il n'y a pas d'industrie, donc c'est pas forcément la même bactérie qui seront utilisées à
une station pour une industrie.
Alors vous avez dit que la boue dans ce bassin allait au fond. Est-ce que ça veut dire que de temps en temps vous êtes obligé de vider le bassin pour être capable d'enlever la boue ? Comment vous enlevez la boue ?
En fait, le fond du bassin est conique, et vu qu'on a un pont qui tourne avec des pales au fond, ça ramène toute la boue au centre du bassin. Là, on a un tuyau qui nous l'amène dans un petit puits qu'on appelle de concentration. Là, on attend d'avoir une concentration suffisante de boue. Et après, on extrait ces boues avec la centrifugeuse, qui permet en fait, en gros, d'essorer les boues. En sortie de centrifugeuse, on a à peu près encore 80% d'eau. Donc ça nous fait des boues plutôt pâteuses. Donc et de là, après sortie centrifugeuse, ça va dans le sécheur solaire. Donc là, c'est des ponts qui retournent la boue sur 60 mètres de long. On a donc le soleil qui sèche les boues. On a des ventilateurs qui brassent donc, l'air et qui sèchent les boues. Et pour l'hiver, la période hivernale, on a un plancher chauffant qui vient donc compléter, parce que vu que l'ensoleillement est assez faible ici l'hiver, et ces boues-là repartent en épandage dans les terrains des agriculteurs de la région. Et on fait des analyses tous les mois sur les effluents de la station et avant chaque épandage sur les boues.
Comment ça s'appelle cette technologie ?
Ça, c'est une station de boue activée.
Bioactivée ?
Boue activée.
Boue activée, ouais. D'accord. C'est une technologie récente ?
Non, ça fait plusieurs décennies qu'elle est utilisée.
Est-ce que 100% de l'eau de Die arrive à la station ?
Il arrive à la station, les habitations qui sont collectées autour de l'égout, une partie des eaux pluviales parce qu'on a un réseau unitaire, puis les fosses septiques, tout ça, ben, c'est chez particulier, donc ça ne vient pas. Mais après, normalement, toutes les eaux qui sont raccordées. À moins que vous ayez un branchement qu'on n'a pas trouvé, mais...
Il y a toujours des fuites quand même, non ?
Oui, il y a des tuyaux qui ne sont pas étanches, oui. Ça se peut qu'on en perde. On est en train de refaire le réseau, mais c'est très très long, parce qu'il y a pratiquement 30 km de réseau d'assainissement sur la commune de Die. Donc au fur et à mesure, eh bien, on essaye de refaire les réseaux au mieux, quoi, et qu'ils soient étanches, mais voilà, il y a du boulot, quoi.
Il y a environ 450 fosses septiques, je crois,
ouais, voilà.
Individuelles encore. Ils ne sont pas branchés sur la station d'épuration.
Alors qu'est-ce que ça représente en termes de coût de fonctionnement, une station d'épuration ?
Ça représente beaucoup d'argent, entre 110 et 130 000 euros hors taxe de coût de fonctionnement, tout compris.
Il y a combien de personnes qui travaillent sur la station ?
Une personne. Sur la station d'épuration et sur le réseau d'assainissement. Sur le réseau, il y a 6 postes de relevage en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont plus bas que le réseau principal, donc on est obligé de pomper les effluents pour remonter. Donc il y a l'entretien de tous ces postes, le nettoyage et l'entretien de la station, et la réparation, les fuites, les égouts bouchés.
Et alors ça tourne relativement tout seul, alors vous ne faites que surveiller de temps en temps et...
On veille, on extrait des boues, on nettoie, on fait l'entretien des machines, des moteurs. Il y a tout l'entretien des espaces verts qui sont là, donc c'est immense. Il y a les analyses journalières à faire, il y a des contrôles mensuels à faire, il y a des extractions de boue à faire, donc ça se fait pas tout seul. Enfin bon, il faut faire démarrer les machines, vérifier qu'elles fonctionnent correctement et tout ça. Il y a le sécheur solaire à gérer aussi, bien sûr. C'est automatisé, mais il y a quand même de la surveillance. Vérifier le bon fonctionnement, il y a des analyses de boue à faire.
Qu'est-ce qu'a apporté le dispositif de séchage de boue à l'installation déjà existante ?
En fait, l'avantage de ce sécheur, c'est que les boues qu'on épand dans les champs, déjà elles ont plus d'odeur, elles sont plus faciles à manier, à manipuler. Les coûts de transport, on économise dessus. Donc c'est vrai que du coup, c'est surtout qu'on peut après attendre un certain laps de temps avant de pouvoir retourner les terrains. Parce qu'actuellement, on était obligé de retourner dans la foulée les terrains pour les odeurs, pour le voisinage, pour pas qu'ils soient embêtés avec ces odeurs-là. Là, on a un laps de temps qui est beaucoup plus long.
Ici, il n'y a pas d'industrie qui produise des métaux lourds, mais néanmoins, il y a des gens qui disent, hein, j'ai pas d'opinion, mais enfin, il y a des gens qui disent que c'est quand même un peu curieux de mettre sur des terrains agricoles des boues contenant éventuellement des métaux lourds, voire des antibiotiques, des œstrogènes, qui ne sont pas filtrés par la station d'épuration.
Nous, on a fait un plan d'épandage qui est obligatoire donc pour épandre les boues, Donc il y a des analyses qui sont faites mensuellement sur les boues que l'on produit. Avant chaque épandage, il y a des analyses de fait sur les boues. Il y a des analyses qui sont faites après sur les terrains qui ont été épandus. Les métaux lourds, c'est contrôlé à chaque analyse. Donc on est largement en dessous des normes, vu qu'on n'a pas beaucoup d'industries qui produisent de ces métaux lourds. Et donc on répond aux normes actuelles pour l'épandage. On a des boues qui sont de très bonne qualité en fait pour l'épandage.
Ça pourrait presque servir de terreau, non ?
Ça pourrait servir de terreau, oui, bien sûr.
ça sert d'engrais d'ailleurs. Il y a certaines stations qui sont équipées en matériel pour pouvoir vendre ces boues dans le commerce. Il y a un certain investissement à faire, mais elles sont vendues comme engrais dans le commerce.
Alors une station d'épuration, c'était effectivement un élément essentiel pour l'équilibre écologique de cette vallée. Ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de nous divertir avec Fatalitas, Hubert Mounier, le guitariste de l'affaire Louise Trio, dans son dernier disque, La Maison de Pain d'Épices, sorti cette année.
Tout a commencé par une larme qui a rejoint d'autres larmes. Un ruisseau emporte à leur âme, mêlé au sang des innocents. Elles s'en allèrent ainsi par les rivières pour se lancer sur les mers. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe. Elles rencontrèrent au gré des vagues d'autres âmes perdues au large. Elles s'abandonnèrent au voyage et se perdirent dans un nuage. Elles s'envolèrent ainsi vers d'autres cieux, vers des pays merveilleux. Fatalitas, l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe. Au-dessus du monde et du bruit, elles retrouvèrent goût à la vie. Poussées par le vent et l'ennui, elles retombèrent un jour de pluie dans un ruisseau ou peut-être une rivière qui s'en allait vers la mer. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, fatalitas, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe.
Là, nous venons d'entrer dans le nouveau dispositif de séchage des boues. Je sens une légère odeur et un espèce de pont qui roule sur un appareillage. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ce dispositif ?
Ben, en fait, ce dispositif, il permet d'étaler les boues sur le plancher chauffant. Une fois qu'il l'a étalé, il revient en début et il les brasse en fonction des vitesses, des distances qu'on a programmées. Donc, ça permet en fait que les boues ne restent pas toujours à la même place et qu'elles fermentent, et du coup que ça dégage de l'ammoniac, des odeurs nauséabondes, et que ça fermente quoi, tout simplement. Donc là, ça permet de les brasser régulièrement et d'éviter ça et de les sécher plus vite.
Vous en produisez beaucoup de boues par an ?
En fait, on parle en tonnes de matière sèche, donc on produit entre 120 et 130 tonnes de matière sèche, ce qui représentait à l'époque en boue humide. Avant qu'il y ait le sécheur, ça représentait à peu près 800 tonnes de boue liquide. Et là, on va arriver à peu près à 180-190 tonnes avec le sécheur solaire. Donc on va gagner beaucoup de mètres cubes de boue. Donc on va gagner sur les coûts de transport avec ça. Donc on va à peu près économiser entre 30 et 35 000 euros par an sur l'épandage des boues.
Et ça met combien de temps à sécher la boue là ?
Pour sécher des boues comme ça, il faut environ 3-4 jours actuellement avec le soleil qu'on a. Après en hiver, c'est un peu plus long parce qu'il n'y a pas les mêmes températures.
comment ça se passe alors une fois que cette boue est sèche? C'est automatisé ou...
Le pont que vous voyez là qui retourne les boues, il les amène dans une fosse qui est en boue quand la fosse est pleine. On fait venir l'équipe d'épandage, donc ils viennent avec un chargeur, ils remplissent des épandeurs et puis ils emmènent sur les terrains.
Quel agriculteur accepte de recevoir les boues? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est sur le volontariat?
C'est tout à fait volontaire. Donc c'est tous des agriculteurs de la vallée. On leur fournit donc les résultats d'analyse. S'ils ont besoin d'autres compléments, ben on leur fournit. Mais c'est tout à fait sur le volontariat et en connaissance de ce qu'il y a dedans.
Et ils ne se plaignent pas de carottes dégénérescentes ou...
Jusqu'à présent.
Et est-ce qu'un agriculteur qui met des boues de stations d'épuration, est-ce qu'il peut être bio par exemple?
Non.
C'est pour les agriculteurs non bio?
Tout à fait.
Ce qui veut dire quand même quelque chose, non ou pas?
Mais dans certains départements, il me semble que c'est autorisé en agriculture bio. Ça dépend en fait des départements.
Les agriculteurs qui acceptent les boues, est-ce qu'ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent ou est-ce qu'il y a des limites à l'acceptation des boues issues de la station d'épuration?
Il y a un plan de rotation, donc le plan d'épandage est prévu pour accepter les boues pendant 5 ans. Donc ça veut dire que dès qu'on met des boues sur un terrain, on revient que 5 ans après. Il y a un système de rotation qui se fait automatiquement pour éviter de saturer les terrains en boues.
Votre stock d'agriculteurs qui acceptent de recevoir les boues, est-il stable ou est-ce qu'il est en hausse ou est-ce qu'il y a des agriculteurs qui se méfient des boues?
Il est stable, on vient de le refaire, il est en cours de validation dans les services de l'État. Il est stable, on a la même quantité de terrain que... Bon, il y a des agriculteurs qui partent en bio, il y en a des nouveaux qui viennent. En fait, sur 10, on n'en a pas tellement, on en a un ou deux. Le plus, c'est dans le haut d'Ivoire, quoi.
Il a été mis en service quand déjà, je ne me rappelle plus?
La station d'épuration et le sécheur solaire, mi-mars 2011.
Vous connaissez un petit peu combien ça a coûté?
Donc TTC, le montant d'investissement, il a coûté 1 353 000 euros. Donc pour le sécheur solaire, et on a été subventionné, donc on a eu 200 000 euros d'aide de l'État et 10 000 euros d'aide de la région. La station d'épuration, en 1995, a coûté, alors en francs, 14 millions de francs. Donc je vous laisse le soin de transformer en euros.
Vous me dites que vous économisez 30 à 35 000 euros par an de frais de transport, donc ça pourrait être remboursé
en 20 ans.
Ça n'a pas l'air d'être très compliqué, donc il n'y a pas de raison que ça tombe en panne. Ouais. Donc là, nous sommes dans le poste de commande qui ressemble presque à une poste de commande de vaisseau orbital. Il y a plein de boutons partout, il y a un gros panneau devant moi avec des boutons, des cadrans. Il n'y a pas grand-chose qui bouge, hein, mais ça clignote un peu quand même. Qu'est-ce que vous faites dans cet endroit?
Ici, en fait, on a une vue générale de la station où on a la commande de tous les moteurs, les aérateurs. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on manipule...
Et ça vous dit tout de suite s'il y a quelque chose qui va de travers?
Non. Enfin, si un moteur va de travers, oui. Mais après, si la station ne va pas bien, non, ça, c'est les analyses qu'on fait dans le petit laboratoire qu'on a à côté. Donc, au fil du temps, là, on voit que ben, ça se dégrade ou pas. Donc, ben, on interagit avec ce qu'il faut, quoi.
Vous êtes en train de faire un test?
Oui, je fais une analyse pour connaître la concentration de boues qu'il y a dans mon bassin d'aération, afin de savoir s'il faut que j'extrais des boues du bassin ou pas, que je démarre ou pas ma centrifugeuse.
De ce taux de boue, vous pourrez en conclure un certain nombre d'enseignements pour aviser.
Voilà, donc certaines choses qu'il faut que je fasse pour que la station tourne bien, en fonction de ces résultats.
Donc là, je vois que vous êtes en face de l'ordinateur de la salle de contrôle qui vous permet de surveiller absolument tout le réseau.
On surveille tout le réseau d'assainissement et tout le réseau d'eau. Donc il y a un poste ici et il y a un poste aux ateliers municipaux. Et tous ces réservoirs qu'on voit et tous les postes de relevage qu'on a ici sont sous télésurveillance. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème, elle appelle le central qui redirige ou sur les agents la journée ou alors sur une astreinte qui est 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qui est l'astreinte au service de l'eau et de l'assainissement en fait.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème qui peut arriver?
Ah ben, il y a des égouts qui se bouchent, il y a des postes de relevage, il y a des mauvais fonctionnements, ils risquent de déborder, donc il y a des alarmes. Il peut y avoir des cases de conduite, donc on a des contrôles de débit sur les réseaux et tout ça pour essayer d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'on vide les réservoirs et que les gens n'aient plus d'eau, quoi. Donc on essaye d'améliorer au mieux le réseau, on engage beaucoup de travaux et pour que les gens aient une bonne qualité d'eau et un bon réseau d'assainissement et un bon traitement derrière, quoi.
C'est une histoire sans fin, ça. Est-ce que ça peut arriver que la station d'épuration dysfonctionne?
Ça peut arriver, en fonction de l'effluent qu'on rentre, je sais pas, admettons il y en a un agriculteur ou quelqu'un qui renverse dans le réseau un produit toxique, du coup oui, ça peut la rendre, on va dire, malade d'une certaine façon, parce que bon, c'est des êtres vivants, ils sont comme vous, ils peuvent être malades, voilà.
Et le fait qu'il pleuve, ça peut pas délayer le bol alimentaire?
Ça la dissout, mais ça va, elle est calculée suffisamment grande pour pouvoir accuser justement l'eau de pluie qui arrive et qui délaie la pollution.
Cette station d'épuration qui est à 10, est-elle au bout de ses capacités d'absorption des effluents?
on va dire les trois quarts de l'année, on est à peu près à 20-30% de sa capacité. Après, pendant les périodes de vendange, là, on est à 100% de sa capacité, donc elle ne peut pas accepter plus. La station a été dimensionnée exprès pour accueillir les effluents de la cave coopérative.
À cette époque, ils consomment beaucoup d'eau.
C'est pas tant l'eau qu'ils consomment, c'est surtout la pollution qu'ils apportent. Le sucre qui se trouve dans les raisins, dans les eaux de lavage des cuves, cela, il faut bien les retraiter. C'est surtout la concentration qui se trouve dans ces effluents.
Est-ce que vous pensez qu'une station avec des roseaux, avec des bassins de décantation, serait adaptée à une ville comme Die ?
Non, à Die, ce n'est pas possible parce que donc il faudrait à peu près 20 hectares de terrain attenant. Donc on n'a pas cette superficie-là, donc pour nous, ce n'est pas possible.
Est-ce que l'eau est potable à la sortie du robinet de la station d'épuration ?
À la sortie de la station, l'eau n'est pas potable. Il faudrait y faire des traitements supplémentaires. Mais elle est, par contre, pour la baignade, elle est très convenable puisque quand on fait les analyses comparatives eau de sortie et eau de baignade en période estivale, les eaux de la station sont moins polluées que l'eau de la Drôme.
Bon, me voilà presque rassuré dans ces temps de pollution massive qui courent un petit peu partout dans le monde. En tout cas, à Die, on a une bonne station d'épuration, d'après ce que vous dites. Donc sur ce, monsieur Ringalet, monsieur Cluzel et monsieur Manuel, je vous remercie de nous avoir accordé un petit temps pour faire cette interview. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci, bonne journée.
Au revoir.